France Info.
France Info.
Info Science sur France Info, Marie-Odile Monchicourt, bonsoir.
Bonsoir Raphaël.
Grand et noble sujet, hein, ce soir, rien de moins que l'avenir de l'espèce humaine. Vous avez invité Michel Raymond, chercheur à Montpellier, auteur d'un livre « Pourquoi je n'ai pas inventé la roue ?»
Alors, Michel Raymond est directeur de recherche au CNRS, à l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier. Et avec ce titre « Pourquoi je n'ai pas inventé la roue ?», il fait référence à la question de savoir pourquoi la nature, qui au fil de l'évolution en est arrivée à fabriquer des organismes aussi complets que tous ces animaux qui nous entourent, aussi complexes que vous, par exemple. Vous savez que vous avez un cerveau qui est la structure quand même la plus complexe que l'on connaisse sur Terre. Et comment se fait-il que la nature n'ait pas inventé quelque chose d'aussi ingénieux que la roue, Michel Raymond?
Alors, je vais utiliser un peu une image pour répondre. C'est l'exemple de Opportunity, ce deuxième robot envoyé sur Mars, qui avait 6 roues motrices, qui pesait 180 kg, donc en gros, qui faisait 1,50 m de hauteur. C'est l'équivalent d'un petit zèbre.
Oui.
Et qui a été bloqué pendant 3 semaines par une petite dune de 30 cm. Aucun animal avec des pattes n'aurait été bloqué par la moindre petite dune comme ça. Donc effectivement, la roue est un avantage quand il y a des routes. Quand il y a un terrain plat, la roue est extrêmement efficace. Mais quand il n'y a pas de route, ce n'est pas une bonne solution. Et c'est pour ça que ça n'a pas été retenu
par la nature,
ou construit par la sélection naturelle, parce que ce n'était pas du tout avantageux.
Pour un grand spécialiste comme vous de l'évolution, de la sélection naturelle, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de l'espèce humaine aujourd'hui, avec l'arrivée du numérique et tout ça? Est-ce qu'on peut avoir déjà une idée comment l'homme va évoluer?
On peut réfléchir sur quel peut être le futur avec tous ces grands changements culturels, mais aussi on peut prendre un peu leçon des grands changements culturels qu'il y a eu dans le passé, de manière rétrospective, voir quels sont les enseignements. Et on peut par exemple prendre l'analogie de l'agriculture, qui était un grand changement culturel il y a environ 10 000 ans. Et on voit maintenant, de manière rétrospective, que les techniques agricoles permettent de produire une nourriture plus abondante et plus constante. Et c'est un avantage. Quand je dis avantage, ça veut dire que ça permet de mieux se reproduire et de mieux vivre, donc de faire plus d'enfants.
Et en comparaison, tous ceux qui n'avaient pas l'agriculture, alors qu'est-ce qu'ils deviennent dans ce cas-là?
Alors, les chasseurs-cueilleurs qui n'ont pas fait le changement agricole, ils étaient en désavantage par rapport aux agriculteurs.
Ouais.
Et effectivement, on voit que les agriculteurs avaient un avantage démographique considérable. Ils se reproduisaient plus et les chasseurs-cueilleurs ont été relégués petit à petit dans les zones où il n'y avait plus de compétition avec les agriculteurs, c'est-à-dire les déserts, les régions très froides, qui sont les seuls endroits où
il y a encore aujourd'hui des chasseurs-cueilleurs.
Alors voilà, il en reste encore quelques-uns. Bon, maintenant, il y a d'autres phénomènes qui les font disparaître. Mais effectivement, ils étaient relégués dans ces domaines.
C'est-à-dire dans les forêts ou bien dans les...
Dans les déserts, par exemple les Inuits dans les régions arctiques, dans les zones où on ne peut pas faire de l'agriculture, en fait.
Alors justement, toutes ces populations se sont adaptées à des environnements quelquefois très très durs. Je pense aux Sherpas, par exemple, en haut des grandes montagnes du Tibet, ou je pense aussi aux Indiens des Andes qui vivent quelquefois 5000 mètres d'altitude et qui ont toute une morphologie, toute une physiologie qui s'est adaptée à ces conditions très dures où nous ne pourrions peut-être pas résister.
Tout à fait. L'homme s'est adapté aux hautes altitudes 3 fois de manière indépendante, donc dans les hauts plateaux d'Éthiopie, dans les Andes et au Tibet. Et à chaque fois, ça a été progressif, c'est-à-dire que ceux qui pouvaient survivre de plus en plus haut et plus se reproduire, ont laissé plus de descendants, ont transmis ces adaptations génétiques à la tolérance à l'altitude et ont développé donc des adaptations à l'altitude que nous, occidentaux vivant dans des altitudes plus basses, nous n'avons pas. Et quand on va là-bas pour vivre, on a des désavantages parce qu'on n'a pas ces adaptations génétiques pour vivre en altitude.
C'est ça. Et ça, c'est vraiment des résultats de la sélection naturelle. C'est-à-dire que peu à peu, il y a des mutations qui se sont produites chez ces personnes qui vivaient dans des altitudes aussi hautes, qui à un moment donné, il y a eu une mutation et que cette mutation leur a donné plus de résistance par rapport aux autres et donc se sont mieux développées. Et ça, au fil des...
Voilà, il y a de la variabilité.
Au fil des milliers d'années, quoi.
Il y a de la variabilité et certains variants procurent une meilleure adaptation à l'altitude. À ce moment-là, il y a une meilleure reproduction et il y a transmission de ce variant qui se répand. Et donc l'adaptation à l'altitude se répand dans la population et après se prolonge et se...
Et se perfectionne,
effectivement.
D'une certaine façon. Donc ce qui veut dire que la sélection naturelle se fait sur le temps, si elle a le temps de se faire. Donc par rapport à l'espèce humaine aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire justement?
Alors oui, il faut de nombreuses générations. Là, on peut voir les adaptations au changement agricole. On a 10 000 ans de recul. Et on voit toutes les adaptations. Alors maintenant, on voit des grands changements culturels. genre toute la révolution numérique. Mais il y a 50 ans, on ne pouvait pas le prévoir et on ne peut pas savoir si ça va durer très longtemps.
Merci Michel Raymond. Je voudrais rappeler le titre de votre livre « Pourquoi je n'ai pas inventé la roue » paru chez Odile Jacob. Au revoir, merci.